Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Pour sauver la démocratie en Europe, il faut faire tourner sa machine à laver la nuit plutôt qu'à 18h.
J'avais une question à vous poser d'abord. Savoir si vous avez des nouvelles de Macron.
Didier Raoult sera mon ministre de la Santé.
Une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française.
On a affaire à une guerre entre brigands.
Il est 20h, voici le nouveau président de la République.
Allons, pas si tôt. Ça c'est le 24 avril. Mais dans deux jours, attention, premier tour. Allons enfants de la patrie, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'isoloir sanglant est levé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces politiques? Ils vont jusqu'au dans nos bras flatter nos filles et nos campagnes. Aux urnes, citoyens, formez vos bataillons, votons, et qu'un bulletin impur n'abreuve pas nos sillons. On en parle tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et si vous voulez que les carottes ne soient pas entièrement cuites et indigestes, chers auditeurs de Sud Radio et Français en général, qu'est-ce qu'on fait dimanche? Eh bien, on a une alternative. Ou alors, faire ce que Mireille vous demande de faire en chanson. Ou alors, voter. On écoute.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin, un petit oiseau. Ils chantent au loin, on se fait des aveux.
Ah, Mireille, c'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de se coucher dans le foin avec le soleil pour témoin et son aimé à côté et se faire des petits mamours. Mais il paraît que ce dimanche, il y a des élections, des élections présidentielles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, évidemment, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, chacun fera ce qu'il veut. Bien sûr, nous sommes en démocratie. Mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on pourrait se demander si bouger un tout petit peu, se bouger une fois tous les 5 ans, aller deux fois tous les 5 ans pour les législatives, les municipales, et surtout pour les présidentielles, aller voter. Alors, vous dites, effectivement, on entend toujours les mêmes rengaines, et on connaît, et ce ne sont pas seulement des rengaines, ce sont des gens, on peut entendre, oui, mais regardez, on vote, ça sert à quoi, ça change quoi, toujours, effectivement, la même monarchie bananière. Allons, non, monarchie bananière, vous exagérez. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et ce n'est pas d'aujourd'hui, de tel ou tel gouvernant, c'est vrai que l'exécutif est seul, c'est vrai que la législative est à la botte depuis que les législatives suivent les présidentielles, c'est vrai que le judiciaire, on peut se poser beaucoup de questions, nous avons reçu justement Madame Brugère, magistrat, qui en parlait très bien hier à l'émission, il y a un problème d'indépendance, donc on se dit, eh bien ça sert à rien. Mais non, ça ne sert. Vous savez très bien que ça sert. Pourquoi? Parce qu'évidemment que l'élection n'est pas une condition suffisante. Loin de là. Mais c'est une condition nécessaire. Sinon, si on estime effectivement que tout ça ne sert à rien, à ce moment-là, comment chouiner, comment pleurer, comment se révolter justement devant une politique qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas? Si vous ne sanctionnez pas à un moment donné, même si la sanction peut être biaisée, même si la sanction ne donne pas tous les résultats, mais si vous ne sanctionnez pas des gens qui, pendant 5 ans, vous ont déplu, quel qu'il soit, hein, droite, gauche, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va continuer. Vous savez, le pouvoir, quel qu'il soit, encore une fois, il ne s'agit pas de tel ou de tel ou de tel, ne demande qu'une chose. Il veut avoir face à lui des moutons. Il préfère des moutons, bien sûr. Autour de lui, il aura des actifs. Et puis le reste de la population, Allez, vaquez à vos occupations, on ne vous laissera pas mourir de faim, on ne vous empêchera pas d'avoir des soins, mais ne nous embêtez pas, puisque n'oubliez jamais que le pouvoir, c'est « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous ». Je sais mieux votre bien, je le connais, je vous assure. Nous sommes là pour votre bien. Tout ce qu'on fait, d'ailleurs, vous avez vu dans l'histoire, les plus grands massacres ont été faits au nom du bien. Mais de quel bien ? De leur bien. Il ne s'agit pas de ça. Heureusement, nous ne sommes pas ici, ni dans les tueries, ni dans les effusions de sang, encore que pas très loin de chez nous, hein, on sait que ça se passe et que ça peut se passer. Mais surtout, en l'absence de référendum, vous savez très bien que le référendum a été enterré en 2005. Il y a eu un référendum sur la Constitution européenne, 55% des Français ont voté non, eh bien on s'est assis dessus, on a fait le traité de Lisbonne en 2007, et aller circuler, il n'y a rien à voir. Alors, est-ce qu'on continue ça ? Est-ce qu'on continue à dire, bon, ben voilà, écoutez, circulons, il n'y a rien à voir, allons nous coucher dans le foin avec la pluie pour témoin ou le soleil pour témoin ? Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à un moment donné, vous savez, la nécessité, la volonté, la colonne vertébrale sont essentielles. Et chacun manifeste comme il veut. Alors évidemment, on vous dit, ben, faisons un coup d'État, c'est facile. On peut en parler. Et ça veut dire quoi ? Faisons la révolution. C'est pas simple. Occupons les ronds-points. Oui, on l'a vu. Et c'était très bien. Mais ça a abouti à quoi ? Donc déjà, je vais vous dire, ça c'est un avis strictement personnel, moi je suis pour le vote obligatoire, je dis bien obligatoire, avec évidemment la reconnaissance du vote blanc. Parce que le vote blanc actuellement ne sert à rien, vous allez voter effectivement, faire votre devoir, mais ça n'a aucune influence. En revanche, imaginez, auditeurs de Sud Radio, que le vote blanc, si par exemple le vote blanc dépasse les résultats du candidat le mieux placé. Mettons que le candidat premier tour XY a fait 22%. Si le vote blanc représente 25% des inscrits, eh bien, on annule les élections et tous ceux qui sont représentés ne pourront plus se représenter. Vous voyez ce que devient ? C'est une révolution. C'est une petite révolution, mais c'est une révolution quand même. Donc, vote obligatoire, on y arrivera ou pas, reconnaissance du vote blanc, mais en attendant que le vote soit obligatoire. Mais allez-y. Allez-y, parce que je vais vous dire, si vous ne vous occupez pas de politique, eh bien, la politique, elle s'occupera de vous, sans aucun problème. Et vous savez, ça impacte tout, hein ? Pas seulement les impôts, pas seulement le prix de l'essence, du gaz. Les choix que font les princes qui vous gouvernent impactent votre vie quotidienne à un moment donné ou à un autre, que vous le vouliez ou non, que cela vous plaise ou pas. Donc, si vous estimez qu'il n'y a rien à voir, effectivement, soyez spectateur, vaquez à vos occupations, et quand vous plaindrez, eh ben, il n'y aura pas grand monde pour vous écouter. Hein. Et vous ferez quoi ? Eh ben, vous râlerez. Maintenant. Par quoi ? Parce que, comme 90% des Français, vous n'aurez pas les moyens de changer les choses. Les 10%, quand même, qui ont les moyens, oh ben, ils peuvent partir, ou ils ne sentiront pas ça, ou ils seront protégés, ou ils seront dans les bonnes forteresses, bien gardés, etc. Mais vous ferez quoi ? Vous attendrez ? Eh bien, en attendant, ça s'appelle un droit. Mais ce droit, je vais vous dire, c'est un devoir. Ce devoir, il faut le faire. Je répète, et je le dis plus que jamais aujourd'hui, parce que ce sont les élections les plus importantes depuis 40 ans, à mon avis, plus que jamais, abstention, piège à con.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux.
Et vous aurez tout le loisir après le bureau de vote d'aller vous coucher dans le foin avec, on l'espère, le soleil pour témoin. Mais en attendant, je voulais ajouter quelque chose. Les sondages, très bien, mais n'oubliez jamais que Victor Hugo disait « Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. » Les sondages, ne l'oubliez jamais, sont les crottes de la démocratie qui trottent. C'est bien les sondages, c'est bien de les regarder, c'est bien... Pourquoi pas ? Encore que, personnellement, j'aurais été pour l'interdiction des sondages au moins un mois avant le vote. Parce que, au bout du compte, c'est vous qui décidez, vous, les hommes et les femmes de ce pays. Vous décidez pour qui vous voudrez vous gouverner. Et vous dites, oui, mais personne ne me satisfait entièrement. Et alors ? Et alors ? Et quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous choisissez quelqu'un, c'est l'homme ou la femme de votre vie, l'idéal, oui, ça arrive. Mais entre l'idéal et le réel, eh ben, y a une marge. Alors choisissez le ou la moins pire. Vous me dites, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce choix ? Oui, pourquoi ? Parce que le plus important, c'est de choisir en fonction de ce que vous pensez profondément, et je dis pour les gens qui vont voter. Ne regardez pas ce fantasme, cette escroquerie, cette arnaque du vote utile. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Et on l'a vu, et tout le temps, et depuis toujours. Alors on dit, ah oui, tel est en tête, tel est en second, donc si je veux que tel passe, il faudra que je vote pour tel, etc., etc. Non, votez en fonction de ce que vous croyez, de ce que vous avez envie de voir à la tête du pays. C'est ça le plus important. Et franchement, l'histoire du vote utile, l'histoire de ça, pour moi, c'est de l'infantilisation. Encore une fois, il est temps, d'ailleurs dans tous les pays au monde, que l'on traite les gens en adultes. Et s'ils ne veulent pas vous traiter en adultes, eh bien, à vous de réagir, justement, en adultes.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Vous avez évidemment connu U2, hein, le plus grand groupe anglais du monde. U2, Sunday, Bloody Sunday. Oui, dimanche sanglant. Bon, on espère que ce ne sera pas aussi sanglant que ça, encore que ça va être effectivement très très dur dans les urnes et ailleurs. Mais il y a quand même un corps de métier, plusieurs corps de métier, eh bien, à qui on donne la permission de voter, mais c'est presque une permission de plus en plus réduite. Et notamment, effectivement, Bruno Attal, qui est secrétaire adjoint de Policiers en colère et France Police, alerte sur une situation qui paraît, qui nous interpelle. Écoutez.
Bonjour, c'est un réel scandale. Je m'adresse à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, et M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Ce dimanche 10 avril, lors des élections présidentielles, des milliers, voire des dizaines de milliers de policiers ne pourront pas aller voter. Il y a eu des changements d'horaire dans la police nationale. Aujourd'hui, beaucoup de policiers travaillent 12h08 dans une vacation. Et donc, ceux qui travailleront le dimanche 10 avril ne pourront pas aller voter. Et quand on sollicite l'administration, elle nous a répondu qu'ils fassent une procuration. Pire, pour nos collègues agents pénitentiaires, puisque eux aussi font des grandes vacations de 12 heures, eux aussi ne pourront pas aller voter, mais on leur demande de mettre tout en œuvre pour que les prisonniers puissent aller voter, tout simplement. Oui, vous ne rêvez pas.
Oui, c'est intéressant, les détenus pourront aller voter, très bien, mais les surveillants pénitentiaires, non, ils n'auront pas le temps. Les policiers, non, ils n'auront pas le temps. Il y a quand même quelque chose de, allez, on ne va pas dire de pourri au royaume du Danemark, ça c'est Shakespeare, c'est beaucoup plus fort que nous. Mais il y a quelque chose quand même de dérangé. Est-ce qu'il est normal, effectivement, que tout citoyen français, quel qu'il soit, fonctionnaire ou pas fonctionnaire, policier ou pas policier, militaire ou pas militaire, est-ce qu'on doit organiser par relais, par remplacement, que tous puissent aller voter, et pas seulement par procuration ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, là aussi, encore une fois, on fait quoi ? Du suffrage censitaire ? On fait du suffrage à géométrie variable ? À deux poids, deux mesures ? Non, c'est pas normal. Et effectivement, c'était bien, c'était honnête et utile d'attirer l'attention sur, encore une fois, ce dysfonctionnement dit démocratique. Démocratique ou démocratiouïtique ? On voudrait savoir.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et si on vous a dit que votre pouvoir d'achat ne s'est jamais aussi bien porté, vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que ça. Nous sommes avec Mireille Zaki, journaliste spécialisée des questions d'économie et qui publie des informations économiques, repérer les stratégies marketing qui enjolivent les chiffres officiels aux éditions Favre. Bonjour Madame Zaki.
Bonjour à vous.
Bonjour Mireille Zaki.
Merci de me recevoir.
Bah écoutez, merci d'avoir écrit ce livre qui est vraiment passionnant. Il faut prendre le temps de le lire, de le déchiffrer. Et des informations économiques, repérer les stratégies marketing qui enjolivent les chiffres officiels. Alors, votre livre fourmille d'exemples, et c'est vraiment intéressant parce qu'on est là, on vit nos vies, on va à quelles occupations, et vous, les journalistes économiques, les décrypteurs, les analystes, les vrais,
je parle ceux qui savent ce dont ils parlent, qui parlent en connaissance de cause, eh bien, vous montrez que sous la façade de « mais on vous dit tout, on est transparent », l'opacité n'a jamais été aussi grande. Alors, je voudrais que vous me donniez quelques exemples, et je voudrais commencer justement au milieu de votre livre, enfin, vous parlez des réseaux sociaux et de la manière dont on lance tel ou tel produit sous des dehors absolument lénifiants d'internautes militants, alors que ce sont des trolls. Racontez-nous, Mireille Zaki.
Oui, alors, tout à fait. Ça, c'est une industrie qui est déjà très développée et qui ne fera que s'accroître. C'est comment le marketing aujourd'hui fonctionne sur les réseaux sociaux pour faire mousser un produit. On va payer des gens pour venir participer à la discussion, montrer leur enthousiasme, alors qu'en fait, ils sont payés. Parfois, ils ont des scripts pour intervenir. Ça a été beaucoup pratiqué dans les communautés des crypto-monnaies aussi.
Oui.
En France, les jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, on les recrute pour qu'ils viennent aussi. L'armée marketing qui va faire mousser un produit, mais tout ça n'est évidemment pas spontané.
Alors, est-ce que cette désinformation économique dont vous parlez, où vous racontez l'histoire, etc., elle existe presque depuis toujours, on pourrait dire? Dès qu'on a essayé de vendre quelque chose, on a essayé de l'enjoliver en faisant tout ce qu'il fallait pour dire, écoutez, on va pas vous dire ce qui va pas, mais on va dire que tout va bien pour le meilleur du monde.
Bien sûr, mais il y a un contexte quand même, c'est que comme les pays occidentaux maintenant, ils sont très endettés et leur situation, elle décline un peu.
Oui.
On sent qu'il y a vraiment une volonté de préserver une image de suprématie économique avec des PIB fantastiques, des taux d'inflation très bas. Ils l'ont été pendant les 10 dernières années, ils ne le sont plus maintenant. Des taux de chômage magnifiques, même aujourd'hui. Mais tout ça, ça sous-estime la réalité économique. Les taux d'inflation, en réalité, ils ont été sous-estimés depuis des années. Les taux de chômage aussi. En France, par exemple, il y a tout un halo de chômage qu'on sait qu'il existe, mais on ne veut pas l'inclure vraiment dans les chiffres, dans les indices. Et du coup, les indices perdent de leur utilité citoyenne, si vous voulez. Ils ne nous informent plus sur la vraie situation de l'économie. Par exemple, si je veux connaître mon pouvoir d'achat et que j'ai une inflation qui est sans cesse sous-estimée, par exemple, elle n'inclut pas les prix de l'immobilier en France.
Alors, donnez-nous l'exemple. Alors, le pouvoir d'achat est calculé, vous dites, sur des tas de facteurs, vous dites dans votre livre, ne sont pas inclus dans
l'inflation.
Dans l'inflation, oui.
Oui. Alors, on va vous compter le loyer qui va être que 6% de l'indice d'inflation, alors que pour le budget de personnes plus modestes, ça représente parfois 25% de leur budget. On va vous exclure les prix des maisons, alors qu'aujourd'hui, les jeunes n'arrivent plus vraiment à acheter des maisons parce qu'elles sont beaucoup plus chères pour eux aujourd'hui que pour les générations précédentes. On va aussi exclure tout ce qui est, par exemple, prix de l'énergie, ça va être le carburant, par exemple.
Oui.
Il est mis à, je crois, à 9% ou à 4%, à 4% de l'indice d'inflation, mais c'est très peu, parce qu'il a énormément augmenté aujourd'hui. Et pour certains, ça représente une partie beaucoup plus élevée, 4% de leur budget. Donc, quand vous avez un indice d'inflation, il vous renseigne pas vraiment, parce que c'est une moyenne.
Ouais,
et une moyenne, c'est pour tout le monde, même pour les riches et pour les plus pauvres. Mais pour les plus pauvres,
ben
c'est
oui.
Poste de charge, là. Ils pèsent beaucoup plus lourd dans leur budget, mais c'est mal reflété. Donc, c'est des indices qui commencent à perdre de leur signification. On a utilisé des méthodes statistiques qui vont toujours choisir l'option qui va plus sous-estimer l'inflation que la surestimer. Par exemple, vous, Monsieur Berkoff, si vous achetez un nouveau smartphone, vu qu'il a des nouvelles fonctionnalités, on va vous compter que vous n'avez pas payé plus cher, alors que vous l'avez payé plus cher. Donc, l'indice d'inflation va dire que comme vous avez gagné en qualité, vous n'avez pas payé plus cher.
Mais si Mireille Zaki, oui. Non, justement, vous dites, on va dire que vous ne l'avez pas payé plus cher, mais ils sont obligés de déclarer le prix auquel je l'ai acheté.
Ils vont le compenser par le gain de qualité, c'est l'effet de hédonisme, c'est la méthode hédonisme. Il y a aussi la méthode de substitution. On va dire que si votre steak, il coûte maintenant plus cher, vous allez vous reporter sur un steak moins cher. On va pas mettre le prix plus cher, etc.
Oui.
Ce qu'on va faire, c'est que chaque fois que quelque chose monte, on va l'exclure. Vous voyez ça? C'est des méthodes qui font que l'inflation, elle est beaucoup plus faible que ce que moi, je subis en termes de coût de la vie.
Oui.
Les prix des concerts ont augmenté. Vous voyez que vous faites plus la queue aussi partout. Vous avez plus de travaux à Paris aussi. Vous voulez aller aux Rolling Stones en juillet.
Oui.
Vous avez des billets aujourd'hui qui sont à 3000 euros pour aller voir les Rolling Stones. Ça, c'est le carré VIP.
Oui.
400 francs pour être debout, 400 euros pour être debout, pour écouter le concert des Rolling Stones. Moi, on a le même concert, ils vont passer à Berne. J'ai vu les prix. Je veux dire, tout augmente, mais les indices, ils vont pondérer, ils vont mettre des poids faible pour tout ce qui augmente et des poids plus grands pour tout ce qui n'augmente pas.
N'augmente pas.
Même l'alimentation, ils vont vous dire que vous, de toute façon, vous achèterez les choses qui sont moins chères si le prix augmente. Et du coup, c'est plus des indices de coût de la vie. De même pour le chômage, on va vous dire qu'on est quasiment en plein emploi en Europe. Je veux dire, en Suisse, en France, les taux de chômage sont extrêmement bas. Mais qu'est-ce que vous faites de tous les inactifs, les découragés qui ne sont plus inscrits à Pôle emploi ou à un bureau de chômage? Vous les incluez?
On ne les compte pas. On les compte pas.
Voilà, ils sortent des statistiques.
Ouais.
C'est commode, mais c'est pas des informations.
Mais par exemple, sur le chômage, c'est très intéressant parce qu'on nous dit effectivement que le chômage a baissé, qu'il n'a jamais autant baissé. Ouais. Enfin, je parle pour la France, par exemple. Et vous vous dites, mais justement, on exclut toutes plusieurs catégories en fait, de chômeurs, c'est ça?
Voilà, le mal-emploi, les gens qui sont en sous-emploi chronique, c'est-à-dire qu'ils travaillent extrêmement peu d'heures, mais ils sont comptés comme actifs, alors qu'ils devraient être comptés comme chômeurs. Si vous travaillez une heure par semaine, je veux dire, vous ne pouvez pas être compté comme actif. Il y a tous les gens qui sont intérimaires en CDD, qui sont des précaires, ils commencent un boulot, ils l'arrêtent, ils en commencent un autre, ils cumulent plein de petits boulots avec très peu de couverture sociale, c'est-à-dire qu'ils ont des jobs ubérisés, par exemple.
Ouais.
Et puis, il y a les oisifs, les inactifs, qui ne sont plus du tout inscrits nulle part. Puis, il y a les indépendants qui peuvent, pendant des mois et des mois, ne pas travailler, tout d'un coup, parce qu'ils n'ont pas de business qui vient, puis tout d'un coup, ils ont, mais c'est très intermittent comme ça. Et tout cela... Et bien, finalement, ils ne sont pas comptés parce qu'ils ne réclament rien au bureau du chômage, tout simplement. Donc, en fait, on a pris, si vous voulez, la définition la plus étroite. Et si vous voulez bien gouverner, la règle d'une bonne gouvernance, c'est que vous prenez, au contraire, les indices qui englobent et vous montrez les phénomènes. Parce qu'on n'est pas dans du marketing ici, on est dans de la gouvernance. Donc, ça devrait être vraiment une information d'intérêt général.
Est-ce que ça veut dire, ça, Mireille Zaki, justement, quand on vous lit, que la gouvernance a non pas cédé le pas, s'est mise au service de sa propre communication. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les communicants qui donnent le ton et pas les gouvernants.
Oui, c'est-à-dire là, on est vraiment dans le siècle de la communication, ça pénètre tout. On va faire appel à des gens qui vont nous permettre de présenter les choses sous leur meilleure forme, de mettre en avant que certains chiffres et pas d'autres.
Des cabinets conseils, par exemple.
Oui, par exemple. Et à la veille des élections, parlons des cabinets de conseil, qui vont aussi conseiller les entreprises dans le même sens. Donc, vous avez des rapports annuels qui autrefois étaient des tableaux de chiffres un peu de type Allemagne de l'Est, avec une comptabilité fidèle. Enfin, j'exagère un peu. Les chiffres n'ont jamais été complètement fiables, évidemment, il ne faut pas être naïf. Mais aujourd'hui, vous avez des magnifiques brochures de toutes ces compagnies du CAC 40, avec des graphiques sublimes, des photos incroyables. Et parfois, vous ne trouvez même pas des informations essentielles. Moi, dans mon livre, je donne l'exemple de deux banques suisses qui sont les deux plus grandes. Quand il y a eu la crise des subprimes et puis récemment l'affaire d'un hedge fund qui a coulé, vous ne pouvez rien trouver dans les rapports. Pourtant, c'est des rapports annuels qui vous donnent extrêmement énormément de détails, beaucoup d'informations légales tout à fait techniques que seul un avocat spécialisé pourrait comprendre. Donc, un citoyen aujourd'hui qui veut lire un rapport annuel d'une grande boîte, je peux vous dire que c'est très compliqué.
Vous voulez dire impossible? Ça veut dire qu'un citoyen, disons, lambda, qui n'a pas une spécialité économique ou d'avocat, enfin, spécialisé dans les affaires, ne peut rien comprendre, ne pas avoir une juste vue de telle ou telle entreprise et de la situation de telle ou telle entreprise.
Mais il va être noyé sous des tonnes de pages qui vous parlent de la responsabilité sociale et environnementale incroyable, de toutes les notices légales, les disclaimers, là, les clauses de non-responsabilité légale, etc. Il va être noyé dans tout ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il y a une ONG qui va venir, qui va vous dire, Danone ou Lactalis, en fait, elles ont mis des objectifs climat qui avaient l'air très stricts et finalement, elles dépassent leurs émissions absolues de carbone, ont augmenté, en fait, depuis 2 ans.
Ouais.
Et vous allez voir qu'il y a des informations autres qui sortent ailleurs, mais qui ne sont pas dans ces rapports annuels. Donc aujourd'hui, ils peuvent faire 500 pages des rapports annuels. Vous devez les télécharger en plusieurs morceaux sur le web, tellement il y en a.
Oui, il y en a.
Et et c'est beaucoup de marketing quand même, etc. Donc à un moment, nous, les journalistes économiques, on doit le dire, on doit retraiter ces informations, on doit les remettre en contexte. Quand un pays nous publie un magnifique PIB, on doit aussi parler d'autres aspects plus démographiques.
Alors, parlons, alors justement, Mireille Zaki, c'est très intéressant. Mm-hmm. Parlons du PIB, parce que ça, pour encore une fois, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'on inclut dans le PIB? Qu'est-ce qu'on exclut? Est-ce que c'est en fonction, effectivement, du vent? Est-ce qu'en fonction du doigt mouillé, en fonction de ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas? Je parle des gouvernants.
C'est comme... parce que vous parlez de la production annuelle d'un pays, mais déjà un pays qui, pour produire ce qu'il produit, il génère 2 euros de dette pour 1 euro de croissance. Il faudrait le dire, je veux dire. Vous avez par exemple les États-Unis ou la France, qui ont une dette sur PIB qui dépasse les 100%.
Oui. Ça veut dire 120% pour la France aujourd'hui.
120%, oui. Exactement. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas une croissance efficace, efficiente, parce qu'elle génère beaucoup trop de dettes. Et tout ça, c'est des charges futures pour le gouvernement, pour les futures générations. Oui. Ensuite, ça ne vous dit rien du développement humain. Par exemple, le taux de mortalité infantile, ce genre de choses, vous ne le voyez pas dans le PIB, mais il augmente aux États-Unis. Le taux d'incarcération, il est plus élevé, par exemple, aux États-Unis, parce que j'ai comparé surtout les... Mais vous trouvez tout sur le site de la Banque mondiale. Et vous pouvez aller voir le taux d'alcoolisme, le taux de suicide. Il faut aller compléter le PIB avec tout ça pour avoir une vraie image.
Ça, c'est pas dans le PIB. Ça, c'est pas dans le PIB.
Au contraire, vous avez besoin d'aller voir que coûte cette croissance. Elle s'est faite à quel prix ? Ou dépend de quoi ? C'est pour ça que vous regardez des paramètres de développement et démographique. Comme ça, vous avez une capacité de prévoir bien meilleure que si vous regardez uniquement le PIB. C'est insuffisant. En plus, on va vous publier un chiffre de croissance qui est assez haut. Puis après, 3 mois après, on vous publie le chiffre révisé. Le chiffre révisé, il est toujours moins bien. Ben, personne ne le voit, parce que c'est le premier qui a été diffusé, évidemment, qui est diffusé partout. Donc, c'est toutes ces petites combines qui vont faire qu'on n'est pas bien informé.
Oui, vous savez, on l'a su en France. Enfin, justement, et votre livre fourmille d'exemples, et c'est en ça qu'il est vraiment très intéressant. On l'a vu en France, vous savez, qu'on a dit, regardez, après Covid, après confinement, après tout ça, on avait perdu une croissance. Vous avez vu, on a regagné 8% de croissance. On ne s'est du jamais vu, alors qu'on avait perdu 7% ou plus que ça, quoi.
Alors déjà, on rebondit sur des niveaux très bas. Ouais. Ensuite, effectivement, on c'est énorme. Tous les gouvernements se sont énormément endettés. Ils n'arrivent plus vraiment à maintenir les infrastructures publiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Tout le monde développé est concerné par les mêmes phénomènes. Paupérisation de l'État, accumulation de richesses dans les portefeuilles de ceux qui ont investi en bourse. Parce que là aussi, on vous dit que la bourse, elle monte de son propre fait, grâce à la performance économique, alors que ce sont les banques centrales qui expliquent la moitié de la hausse de la bourse. Ça aussi, ça a été étudié par des analystes. La banque centrale, elle crée de la monnaie, elle achète elle-même la bourse, donc elle est le premier acheteur de la bourse, et donc ça fait monter la bourse. Et donc, si moi, je suis un portefeuille d'actions, ben je m'enrichis comme ça, vous voyez. Oui. Mais si je suis quelqu'un qui compte que sur son salaire, ben moi, je suis là et les personnes qui ont des portefeuilles d'actions, ben elles me dépassent. Et ça, c'est une forme d'inflation qui n'est pas du tout expliquée.
Oui.
Pourquoi ? Si moi, je suis salarié, mais je veux acheter une action Tesla, elle était à 80 euros il y a 3 ans, maintenant, elle est à 1 000 euros. Ça, c'est de l'inflation. Ben moi, aujourd'hui, si je veux entrer dans la bourse à des niveaux pareils, dans les actions qui
me croissent, il faut que je puisse.
C'est 1 000 francs, 1 000 euros l'action. Voyez. Alors, je veux dire, tout ça, ça fait qu'on a une inégalité très forte entre les écarts, si vous voulez, entre les plus hauts revenus et les plus bas revenus, augmente dans tous les pays développés, ce qui fait qu'un indice d'inflation moyen, par exemple, il ne vous dit plus grand-chose d'intéressant et il ne reflète plus la réalité du plus grand nombre. Et tout ça, nous, on devrait être là pour le dire, c'est notre rôle.
Eh ben,
on
écoutez,
doit voir
vous,
tous ceux
vous
qui
le,
publient
vous...
des enquêtes.
Mireille Zaki, vous le dites très bien dans votre livre, on va continuer à en parler après une toute petite pause. À tout de suite.
C'est toujours très intéressant d'apprendre que l'on vous prend pour défaut à 2 jours du premier tour. Et Mireille Zaki est avec nous jusqu'à 13h.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous continuons avec cette économie dans tous ses états, cette inflation dans tous ses états, dont parle brillamment Mireille Zaki, journaliste économique, qui a déjà écrit d'ailleurs sur les dessous de l'UBS, les dessous d'un scandale. J'aime beaucoup aussi le secret bancaire est mort, vive l'évasion fiscale, la fin du dollar et la finance de l'ombre a pris le contrôle. Alors Mireille Zaki, il y a 2 chapitres que je voulais aborder parce qu'on en parle beaucoup et vous en parlez très bien dans votre livre, enfin de façon très... C'est, parlons un tout petit peu des paradis fiscaux. Alors on dit de temps en temps, mais oui, ça y est, on va se battre, alors on l'entend, les Pandora Papers, etc., etc. En fait... On a gagné du terrain là-dessus, sur la transparence, ou pas vraiment ?
Alors, pas du tout. Les montants de l'évasion fiscale restent très, très élevés. Plus de 500 milliards par année échappent au gouvernement.
500 milliards par année ?
Oui, à peu près, d'accord. Je crois bien, 470, quelque chose comme ça.
Oui.
Les fortunes privées défiscalisées sont quelque chose de comme 30 000 milliards.
Oui. D'accord, 30 trillions.
voilà, placés dans des fondations, des trusts, des sociétés écrans, dans toutes sortes de structures.
Ouais.
Et on a ces opérations, comme vous dites, les Paradise Papers, les Pandora, les Panama Papers, les Swiss Leaks, les Swiss Secrets, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'à chaque fois, ce qui est exposé, c'est des juridictions relativement petites. La Suisse n'est pas petite, c'est une grosse juridiction. Mais en fait, c'est pas la plus grosse aujourd'hui. Il y a des choses qui se font ailleurs qui sont beaucoup plus opaques. Par exemple, au Delaware, par exemple, à Londres. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, bizarrement, on voit que on n'a pas eu de Delaware Leaks ou de London Leaks. Et on se pose la question. Oui. Et bien, la question de la source de toutes ces fuites. C'est chaque fois des giga octets de données. L'opération porte un nom, on a le consortium et il en résulte qu'on a une information très, très homogène qui sort, qui est très uniforme, qui sort. Après, chaque pays enquête, évidemment, mais on va exposer le Liechtenstein, le Panama, Chypre.
Les îles anglo-normandes, etc. etc.
Mais jamais les grands centres. Par exemple, aujourd'hui, le Delaware est numéro un de l'opacité financière d'après Tax Justice Network. Les Caïmans sont numéro deux, mais ils ne sont jamais vraiment exposés. Londres est, d'après les parlementaires britanniques eux-mêmes, la capitale du blanchiment mondial, du blanchiment d'argent. Et la dernière opération, c'était intéressant, il y a eu l'OCCRP, un consortium de journalistes spécialisés dans le blanchiment, qui a sorti une affaire sur une banque suisse, Crédit Suisse. Et je regarde qui finance, par exemple, l'OCCRP. Moi, ça m'intéresse. Qui finance, qui donne...
Qui finance le consortium de journalistes, c'est ça.
C'est, par exemple, un des donateurs, c'est le secrétariat d'État américain.
D'accord.
Le U.S. State Department.
Département des affaires étrangères, le State Department.
Alors, je pose la question des conflits d'intérêts. Si je suis un consortium financé par le département des affaires étrangères américain, est-ce que je vais enquêter sur les paradis fiscaux américains?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bonne question.
Je vais peut-être pas commencer par là. Donc, le livre est plein d'exemples de conflits d'intérêts très importants par rapport à des donateurs, à des fondations, à des entités qui, en finançant, elles peuvent weaponiser, elles peuvent diriger ces consortiums contre certaines juridictions, mais pas contre d'autres.
Mais
on n'est pas dans de l'indépendance réelle au niveau de la marge de manœuvre. On est sur des opérations. Si tout d'un coup, un autre pays finançait, la Russie finançait un autre consortium, on sortirait d'autres infos. Mais c'est un peu qui paye commande. Il y a quand même cet aspect. Il faut en tenir compte. On ne peut pas juste prendre les communiqués de presse comme ça et les avaler comme des...
Alors que justement, mais Mireille Zaki, justement, vous en parlez, c'est pour ça. Vraiment, votre livre fourmille d'informations de ce point de vue-là. Et c'est vrai que quand on voit, ça y est, on a vu les Pandora Papers, mais comme vous dites, pourquoi on ne parle pas du Delaware et de Londres, comme on parlerait effectivement des autres. Toujours la géométrie variable, toujours les deux poids et deux mesures.
Regardez, par exemple, partout. Le secret bancaire suisse a été tué en 2008.
Oui.
Et puis, le Dakota du Sud a explosé avec des trusts et ils ont maintenant dans les 400 milliards de fonds sous gestion. Donc, on a une place financière là qui a explosé depuis 2008. C'est le Dakota du Sud.
Plus que le Delaware. Ils sont au niveau du Delaware.
Ne favorise-t-elle pas l'autre, pardon?
Oui, Mireille Zaki, est-ce que le Dakota du Sud est déjà au niveau du Delaware?
Alors, lui, il fait surtout de la gestion de fonds défiscalisés, alors que le Delaware va faire des sociétés écrans.
D'accord.
Il va les incorporer. Il y a des milliards de boîtes aux lettres là-bas. Ils ont chacun leur spécialité, mais ils participent tous d'une opacité évidente qui ne peut pas être attaquée. En gros, aujourd'hui, pour faire vraiment court, si vous êtes une puissance nucléaire, vous pouvez avoir plus facilement un paradis fiscal sur votre sol. Si vous êtes la Chine ou les États-Unis, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va beaucoup moins vous attaquer. C'est aussi bête que ça. Et certains vont dire « Ah non, il n'y a pas du tout de rapport de force ». Mais non, tout le monde va vers la transparence, etc. Ça, j'ai eu des débats à non plus finir à ce sujet. Et malheureusement, ça ne se confirme absolument pas.
Ah oui.
Il y a bien des rapports de force et… l'évasion fiscale, et ça suit un peu la loi du plus fort.
Et alors justement, du point de vue de l'information, vous avez aussi un chapitre passionnant sur comment le journalisme économique a été effectivement un peu trop lisé, ou en tout cas, elle est envahie par la doxa et une certaine opacité aussi.
Par la communication, c'est juste un rapport de force. Vous avez énormément de départements de communication d'entreprises qui sont extrêmement bien équipés. Ils ont leurs rédacteurs, leurs même beaucoup de journalistes qui les ont rejoints. Ils ont des studios vidéo, des graphistes, ils ont quasiment des rédactions. Ils sont eux-mêmes devenus des médias. C'est ça. En face, vous avez des médias qui, dans tous les pays développés, en tout cas, ils faiblissent, hein, faute de moyens, etc. Et donc, le rapport de force n'est plus en faveur du journaliste économique libre et indépendant parce qu'on va lui proposer des tonnes de communiqués, de projets de communication, de collaboration. Il y aura des publi-reportages, etc. La masse de ces informations est beaucoup, beaucoup plus forte que ce que moi, je peux produire en enquête indépendante, etc., ou le temps qu'un journaliste il a maintenant pour faire en toute indépendance, y compris contre des annonceurs ou contre des entités puissantes. Ça va devenir très, très compliqué et ça n'est pas fini.
Et vous dites, alors Mireille Zaki, non, mais c'est très important ce que vous dites et aussi grave. Enfin, vous dites qu'en fait, la manière dont on transmet l'information, le journalisme, et c'est vrai parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes moyens, je parle du journalisme indépendant, encore une fois, et qui est le seul journalisme qui vaille, est vraiment menacé par ce rapport de force où les autres sont devenus des médias, enfin, fabriquent leurs propres médias, quoi.
Ils fabriquent leur chaîne YouTube, leurs brochures. Vous pouvez aller sur UBS, le site de l'UBS, ils ont des interviews vidéo incroyables avec des banquiers centraux. Ils invitent des banquiers centraux parce qu'ils ont du réseau et ils ont un journaliste qui les interviewe. Moi, je n'avais pas vu ça sur les médias financiers. Je vois des choses parfois chez les entreprises où je dis « Ah, mais nous, on aimerait bien faire ça ». C'est incroyable. Et là, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais on a des convergences qui se passent, on a des inversions qui se passent. Il faut faire très attention parce que si je suis le magazine d'une entreprise ou la chaîne YouTube d'une entreprise, il est clair que ça ne peut pas être de l'information indépendante. Ce sera toujours de la communication. Même si elles vont de plus en plus vers de l'information, elles ne vont jamais enquêter sur elles-mêmes. Donc, on sait de toute façon qu'on est dans la communication. D'un autre côté, le journalisme, il y a des choses sur lesquelles il ne va pas enquêter non plus. Parce qu'il a les mains
liées. Oui.
Les mains liées, voilà. Et donc, on a des convergences comme ça qu'on n'aimerait pas voir. On n'aimerait pas les voir, ces convergences, mais elles existent.
Et c'est vraiment absolument fascinant et vraiment surtout instructif. Et je crois que c'est très important, je vous le dis, pour tous ceux qui s'intéressent au monde dans lequel nous vivons, au rapport de force économique, parce que c'est ça, tout joue là-dessus. On voit très bien ce qui se passe avec la guerre d'Ukraine. On pourra en parler, Mireille Zaki, pendant des heures à propos des intérêts et des conflits d'intérêts là aussi. Des informations économiques, repérer les stratégies marketing qui enjolivent les chiffres officiels. C'est chez Favre et c'est un livre vraiment que je recommande absolument. Merci Mireille Zaki.
Merci beaucoup André.
Merci, je rappelle que vous êtes donc journaliste spécialisé des questions d'économie. Et puis dans un instant André, vous serez avec Céline Alonso et vous recevez Jean-Pierre Jouyet qui publie Notre vieux royaume et qui va parler un petit peu des Gaulois réfractaires.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso.
Vous avez reconnu évidemment l'immortelle Édith Piaf, gauloise réfractaire, en tout cas là, hein, on peut le dire, dans le Ça ira, un grand chant révolutionnaire. Et en fait, on a l'impression que les Français ne sont que révolutionnaires. Et on voit que c'est beaucoup plus compliqué quand on lit le livre de Jean-Pierre Jouyet. Et il y a un certain nombre, et c'est très intéressant dans ce livre, c'est que Notre vieux royaume, hein, ça s'appelle, c'est chez Albin Michel. Et ce qui est intéressant, c'est quand même il y a des constantes dans cette histoire de France. Et on a l'impression, on se dit, mais aujourd'hui, on est en 2022, qu'est-ce qu'on a à voir avec Louis XIV, avec les Lumières, avec la Renaissance, même avec le Moyen-Âge? Eh bien, pas du tout. Et celui qui le dit connaît la musique, parce que celui qui le dit, c'est non seulement un faiseur de rois, mais quelqu'un qui a servi dans un certain nombre de et à un niveau important, Jean-Pierre Jouyet. Je rappelle quand même, 4 présidents de la République, c'est pas rien, c'est vraiment vous serez au livre des records, Jean-Pierre Jouyet, c'est qu'un livre Guinness. Directeur du Trésor, ministre des Affaires étrangères, européennes, pardon, direction de la Caisse des dépôts et consignations, secrétaire général de la présidence de la République, ambassadeur de France en Grande-Bretagne. Et vous parlez effectivement de votre expérience personnelle, on va en parler. Et puis, vous parlez de cette extraordinaire, je ne dirais pas obotécie, de ce parallélisme entre, effectivement, les princes qui nous ont gouvernés et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est très intéressant.
Et oui, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour en parler.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Autre chanson culte de l'histoire de France, Jean-Baptiste Clément, le temps des cerises, c'était temps de la commune de Paris, Montand. La France aussi s'est faite sur les chansons, hein, ne l'oublions pas. Et dans notre mémoire collective, l'histoire de France apparaît comme une suite d'événements dont la trame au fil des temps continue, apparaît continue, dit Georges Duby, le grand académicien, le grand maître de l'histoire médiévale. Hein. On lui doit un magnifique Bouvines. Et c'est par cette citation que Jean-Pierre Jouyet, vous introduisez votre livre « Notre vieux royaume, des Gaulois réfractaires aux Français révoltés » paru chez Albin Michel. Alors Céline, ça commence vraiment fort.
Et oui, et ce livre commence effectivement par cette citation, cette jolie citation que vous venez effectivement de faire, André Bercoff. C'est un livre dans lequel effectivement Jean-Pierre Jouyet met en lumière les constantes de notre histoire. Et nous avons le plaisir donc de le recevoir jusqu'à 14h sur Sud Radio. Bonjour à vous Jean-Pierre Jouyet.
Bonjour.
Alors notre vieux royaume, effectivement, on peut le dire, change peu. L'ADN de la France semble immuable malgré les changements de régime. C'est ce que l'on constate donc tout au long de la lecture de votre livre. Quête de l'homme providentiel, soif de grandeur et de souveraineté, fascination et détestation du pouvoir, fracture entre le peuple et les élites, révolte, scandale, laïcité, ambition universelle. La France s'est toujours voulue au centre du monde, Jean-Pierre Jouyet. Quelles sont les périodes de l'histoire qui illustrent ce rêve de grandeur ?
Bien, je crois que la France et les Français aiment la grandeur. Et cela s'est vu, j'allais dire, depuis Clovis, puisque c'était la première fois qu'apparaissait vraiment roi et l'unité du royaume au IVe siècle, effectivement, 487. Et ensuite, cela s'est vu, bien évidemment, avec Charlemagne. Cela s'est vu également avec Louis XIV, de manière très claire, Napoléon. Et cela s'est vu sous la Ve République avec le général de Gaulle et une grande partie de ses successeurs.
Oui. Et on peut dire aussi, on peut parler aussi de Jules Ferry, vous en parlez longuement dans votre livre, on peut dire que l'ardeur coloniale effectivement de Jules Ferry illustre effectivement notre ambition de puissance.
Oui, il y a une volonté coloniale qui a été, il faut le souligner, une volonté de la Troisième République et qui a fait consensus jusqu'à l'après-guerre. Mais
c'est
avec une volonté
de
puissance et d'être effectivement très présent dans les différentes parties du monde.
Mais l'incarnation du rêve de grandeur, en France, est-ce que ce n'est pas... Je veux dire, est-ce que ça reste Napoléon ? L'incarnation de l'incarnation ?
Ça reste en partie Napoléon, l'incarnation de l'incarnation, c'est vrai. C'est ce qui est dans le souvenir français le plus important. Mais c'est pour ça que j'ai cité, et que vous avez bien fait également de citer d'autres personnes et souverains qui ont toujours recherché cette grandeur. Il y en a qui ont échoué. François Ier, quand même, après Marignan, recherché aussi à être, j'allais dire, un autre Charles Quint, c'est-à-dire à être aussi, lui, l'empereur d'Europe. Enfin, il a échoué. Donc, comme vous le savez, on préfère toujours, dans nos mémoires, garder ceux qui ont gagné.
Juste un mot, Jean-Pierre Jouyet, quand vous définiriez ce rêve de grandeur, si on avait à le définir, ce rêve de grandeur, effectivement, que dans votre livre racontez, qui est une espèce de constante, comme ça, invariante, comment on le définirait ?
Bien, je le définirais comme le fait que la France et les Français, malgré la méfiance, nous y reviendrons, qu'ils peuvent avoir à l'égard de leur leader, ont toujours voulu être influents. Et que dans toute notre histoire, nous avons toujours souhaité maintenir nos spécificités qui vont de la langue, qui vont d'une influence à l'égard de nos pays voisins et une influence qui est même sur un certain nombre de territoires éloignés, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Je crois que les Français et leurs leaders ont toujours voulu une France qui soit influente et qui puisse s'exprimer. Je vous reprends un exemple historique.
Oui.
Vous avez évoqué Napoléon, il faut mentionner qu'il y a eu Waterloo. Et bien après Waterloo, il y a eu ce qu'on appelle le congrès de Vienne, il y a eu, et Talleyrand n'a fait que rechercher de restaurer une certaine influence de la France en Europe. Et quand on s'est aperçu que cette influence n'était pas assez forte, vous avez eu après la Seconde République, Napoléon III, qu'il faut le rappeler, a été élu également le premier au suffrage, j'allais dire censitaire de l'époque,
ouais.
Et qui a recherché également à réaffirmer l'influence et la grandeur de la France. Ça s'est mal terminé en 1870, ouais. Mais ça a toujours été
c'est cette certaine idée de la France.
Mais c'est cette certaine idée de la France. Je vous prends des exemples plus récent, après-guerre, et c'est ce qui a fait, la légitimité du général de Gaulle, c'est aussi le fait de retrouver grandeur et influence après certains échecs, justement, coloniaux, et après certains troubles qui avaient nuit à l'influence de la France en Europe. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui a été subi par la France, et d'ailleurs l'Angleterre, au canal de Suez en 1956.
Oui, et ce qui est très intéressant, effectivement, dans votre livre, vous rappelez, effectivement, que pour accroître eh bien, notre puissance, nous avons initié et conjugué de très grands projets industriels.
Oui.
Et ça, c'est une grandeur de la France.
Et ça, c'est une grandeur de la France, et c'est une, j'allais dire, c'est une grandeur qui doit être maintenue et renforcée. On le voit bien dans les circonstances actuelles, où il y a les risques
le nucléaire,
de dépendance et tout. Et ce qui a fait la grandeur de la France, incontestablement, et renforcer son influence, on le voit aujourd'hui, c'est le nucléaire, qu'il soit militaire ou civil.
Oui.
Alors, et on est bien content d'avoir nos centrales nucléaires aujourd'hui.
Et on est content d'avoir nos centrales nucléaires, et c'est pour ça que j'ai toujours été un partisan d'une industrie française qui soit forte et d'une politique industrielle qui soit forte. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que par exemple au 19e siècle, ou au début du 20e siècle, ou même il y a quelques décennies, on avait des retards importants par rapport au Royaume-Uni et par rapport à l'Allemagne.
Oui. Et aujourd'hui, en parlant de retard, on peut dire qu'effectivement, notre ambition universelle est mise à mal, justement, par rapport à notre retard numérique, par rapport à la Chine et aux États-Unis.
Vous avez tout à fait raison. Ouais. Là, nous sommes plus dans un contexte européen, mais il est vrai, par exemple, puisque André Berkoff l'a souligné, j'ai malheureusement un parcours assez long. À la fin du XXe siècle, on avait essayé, avec les télécommunications, avec le Minitel et tout ça, d'être les premiers en matière de justement, et on a perdu au début du 21e siècle en 2000 et tout ça, je m'en souviens bien, les prérogatives qu'on en avait à l'égard des États-Unis d'abord et puis de la Chine.
Où est-ce que le Minitel arrivait avant Internet?
Mais enfin, bien sûr. Non, on était quand même à un certain moment, nous étions les précurseurs avec nos amis d'Europe scandinave, mais nous avons perdu.
Et oui, et vous dites justement qu'il serait temps de créer une sorte d'Airbus numérique.
Oui,
c'est ça.
C'est vrai, et il faut le faire au niveau européen, parce que là aussi, c'est ce que j'ai remarqué, nous avons toujours recherché à avoir une influence en Europe, et nous devons faire en sorte que l'Europe retrouve elle-même plus de souveraineté en ce domaine. Ça ne doit pas être qu'un marché.
Alors Jean-Pierre Jouyet, autre constante de l'histoire, l'homme providentiel, depuis plus de 1000 ans, notre système politique repose en fait sur le principe de se choisir un, de se choisir donc un sauveur. La révolution n'a rien changé à cela, écrivez-vous. Pourquoi cet état d'esprit a perduré, selon vous ?
Sommes-nous toujours en monarchie ? En fait, on recherche le corps du roi ou les corps du roi ?
Je crois que nous sommes en monarchie. Mais il y a plusieurs types de monarchie. Vous avez eu des monarchies qui étaient absolues. C'était l'Ancien Régime, pour être clair, et symbolisé là par Louis XIV, par le Roi Soleil. Et vous avez eu ensuite, des monarchies qui se sont voulues plus parlementaires. Vous avez même eu des périodes de monarchie partisane. Troisième République et la Quatrième République, c'était le règne des partis, pour reprendre le général de Gaulle. On parlait de règne des partis.
Et des monarchies parlementaires, par exemple
monarchie parlementaire. Vous avez c'est une excellente question. Il y en a pas eu, véritablement. Ceux qui sont les plus, monarchie type orléaniste sous la Cinquième République, c'est Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron. Mais vous n'avez, à la différence d'autres pays, comme le Royaume-Uni, bien évidemment,
ou les pays scandinaves,
ou l'Espagne, vous n'avez pas eu en France de véritable monarchie parlementaire. A voulu toujours que l'homme providentiel, ou le souverain, ait des pouvoirs plus forts que le Parlement. Et vous avez tout à fait raison, tout ça a transgressé, la Révolution, puisque, comme vous le savez, ça s'est terminé aussi la Révolution par des hommes forts, et puis vous êtes passé ensuite au consulat, à Napoléon, et donc même après la Révolution, vous avez encore eu des couronnements et des sacres, même après la Révolution.
C'est que la fameuse phrase « Le roi est mort, vive le roi » a perduré.
Oui,
quelque part.
Oui, exactement. Enfin, vous avez raison. Elle perdure parce que le corps du roi a toujours été extrêmement important dans notre histoire. Cela a toujours compté. L'assassinat d'Henri IV reste un événement toujours qui est marqueur pour l'histoire de France. Ceux qui se sont retrouvés, qui ont décédé dans leur fonction. Comme Georges Pompidou en 1974, on voit bien que ça crée toujours des mouvements politiques forts. Et ensuite, ça c'est pour ce qui est le corps physique, mais vous avez le corps politique et intellectuel, c'est-à-dire que lorsque vous, sous la monarchie républicaine, sous la monarchie de la Ve République, une monarchie présidentielle, là, vous avez également, à travers les différentes élections, on recherche ou on voit quel peut être le successeur du souverain.
Le monarque.
Et oui. Alors François, Monsieur Jouyet, le peuple français effectivement s'est toujours voulu guerrier, on peut dire, à l'égard du pouvoir depuis plus de 700 ans, vous le rappelez dans votre livre. Donc nous avons connu donc plusieurs grandes révoltes populaires d'Étienne Marcel aux Gilets jaunes. Les Français restent-ils vraiment des Gaulois réfractaires ?
Bien, les Français restent, réfractaires ou contestataires sur ce qui concerne les mesures et les dispositions qui sont prises par le souverain ou par ses représentants sur le terrain et par l'administration. Ils considèrent toujours qu'il y a une administration, une représentation du souverain qui est trop éloignés de leurs intérêts. Donc, vous avez eu cela, comme vous l'avez dit, du Moyen-Âge, vous l'avez eu à la fois dans les villes, avec Étienne Marcel, vous l'avez eu dans les campagnes, avec les jacqueries, que ce soit dans l'ouest de la France ou dans d'autres régions. Et en revanche, ils n'ont jamais eu, à la différence d'autres pays, ils n'ont jamais aimé la réforme pour la réforme et la réforme lente. C'est-à-dire que la réforme vient toujours en France à la suite quand même de certains mouvements de contestation.
Et oui. Alors justement, parlons à présent des relations entre le pouvoir et l'argent. Elles ont toujours été très ambiguës. C'est un chapitre de votre livre, un chapitre entier donc à ce sujet. Vous le consacrez. Aucune période de l'histoire n'a été exempte d'accusations sulfureuses envers les puissants, pas même la Révolution française. Quel premier scandale politico-financier a secoué notre vieux royaume ?
Le premier scandale politico-financier qui est secoué notre royaume, c'est sous Louis XIV et tout ce qui s'est fait sur la fronde et les dépenses qui étaient considérées par trop élevées, et celui qui l'a incarné, c'est Fouquet.
Le fameux surintendant.
Qui s'est très enrichi,
mais c'est là où vous voyez, là, il y a eu scandale à propos de Fouquet. Mazarin s'était autant enrichi, voire beaucoup plus que Fouquet, et Colbert, qui est considéré comme un grand financier, et qui a, comme vous le savez, son buste est rue partout, et c'est aussi, lui, beaucoup enrichi. Et puis après, vous avez eu un certain nombre de scandales, notamment, qui ont émaillé la Troisième République et qui ont sans doute fait évoluer le pays à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans le sens qu'il ne fallait pas, mais à cause des scandales qui étaient intervenus dans les années 30.
Lesquels, par exemple ?
Stavitsky est un scandale. Vous avez eu aussi la banquière Marcano et des collusions, donc, entre les pouvoirs et l'argent.
Mais est-ce que, justement, c'est une constante, est-ce que c'est pas quelque chose, évidemment, au pouvoir, est-ce que c'est pas quelque chose qui existe dans tous les pays, qui existe encore aujourd'hui ? Alors, on va pas comparer, effectivement, les cabinets conseils à Madame Martineau, mais est-ce qu'il n'y a pas la tentation de tous les pouvoirs, qu'ils soient de droite, de gauche et de partout, pas eux-mêmes, pas peut-être les princes eux-mêmes, d'être entourés de gens qui, la nature ayant horreur du vide et puis du vide des poches, les intérêts jouent. Est-ce que c'est pas la nature humaine, hélas ?
Non, ça joue effectivement sur sur les pouvoirs. Et vous avez raison, ça ne joue pas qu'en France de ce point de vue-là, mais ça joue également aussi aux États-Unis à l'égard de certains chefs d'État, mais élus aussi au suffrage universel. Ça joue dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, il y a eu, vous souvenez, il y a quelques décennies, le train de vie de la cour et tout. Avait été mis en cause,
dénoncé,
et tout. Et il se trouve que les pouvoirs, c'est pour ça que c'est pas uniquement la nature humaine, cherchent quand même à avoir toujours autour d'eux, et c'était le cas des rois aussi, un certain nombre de financiers, de personnalités qui avaient des richesses, parce que vous avez un phénomène, et surtout en France, où le fait que vous pouvez avoir de grands dirigeants d'entreprises qui se retrouvent aussi parmi les courtisans, et ça arrange à la fois les grands dirigeants d'entreprises
et les princes.
Et ça arrange le prince.
Jean-Pierre Jouy, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec André Bercoff, et on va parler donc des points importants de friction qui ont commencé dans notre histoire et qui demeurent encore aujourd'hui très intenses, à savoir laïcité, immigration, fracture entre le peuple et les élites. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Ben, on la garde tous dans notre cœur, cette douce France de Charles Trenet, bien sûr. Mais alors, bercé de tendre insouciance, aujourd'hui, évidemment, je ne sais pas si on pourrait dire ça. On aimerait qu'on soit dans le pays le plus apaisé du monde, mais on voit qu'il y a eu de sacrées tensions, il y a encore de sacrées tensions, mais Ces tensions, Céline, elles ne datent pas d'hier et Jean-Pierre Jouet le montre dans son livre.
Et oui, dans son livre, Notre vieux royaume paru chez Albin Michel. Alors dans votre livre, Jean-Pierre Jouet, vous replacez la politique française dans une perspective historique. Alors dans la France d'aujourd'hui, effectivement, certains points importants de friction ont commencé dans celle d'hier et demeurent très intenses. On va en parler sur Sud Radio tout de suite. Donc, on va parler donc d'immigration, de fracture entre le peuple et les élites, de laïcité, de l'Europe aussi. Tous ces sujets divisent les Français depuis toujours. Alors Jean-Pierre Jouet, à quand remontent les relations tumultueuses entre pouvoir politique et institutions religieuses ?
C'est une très très bonne question. Je crois que ça a toujours existé et ça s'est renforcé, bien évidemment, au XVIe siècle avec les guerres de religion. Mais vous avez toujours eu en France le fait que le monarque voulait avoir tous les pouvoirs, y compris le pouvoir religieux. Et pour vous donner un exemple précis et daté, c'est, de ce point de vue-là, c'est Philippe le Bel au Moyen-Âge qui est le plus caractéristique, puisque pour maintenir son pouvoir religieux, il a non seulement, comme vous le savez, sacrifié, exécuté les Templiers, mais il est quand même allé envoyer son émissaire et son intendant gifler le pape à Agnani. Voilà. Donc, c'est pas... après, vous avez une spécificité française qui n'existe pas dans d'autres pays, qui s'est appelée le gallicanisme. C'est-à-dire que vous aviez une religion, qui était à cette époque la religion catholique, mais ça devait obéir véritablement au monarque.
Au roi.
Et que c'était au roi. Et Louis XIV, il n'acceptait pas. Vous n'avez jamais entendu parler Louis XIV du pape là-dessus. Troisième point, c'est qu'au gallicanisme a succédé la laïcité, parce que s'il y a eu un grand débat sous la Troisième République et après 1870, qui a été que tout ce qui était l'enseignement, tout ce qui était la formation, tout ce qui était la pensée relevait de l'Église et que les institutions étaient noyautées par l'Église catholique, notamment l'armée. Et après l'affaire Dreyfus et tout, on a cherché à réduire l'influence des catholiques uniquement sur la nation, et c'est la laïcité qui l'a emporté. Et aujourd'hui, vous remarquerez que quelles que soient les sensibilités, le consensus le plus fort en France, c'est sur la laïcité. Alors que nous sommes le seul pays d'Europe avec la Turquie, mais la Turquie d'avant. Voilà, exactement.
Mais justement, quelle est l'origine de cette spécificité ?
Mais la spécificité, je vous le dis, c'est justement que le monarque, ceux qui détiennent le pouvoir, ne veulent pas avoir de contre-pouvoir en matière de religion. Et je vous prends la laïcité. La laïcité, elle a été essentiellement critiquée par les catholiques et par qui se sont vus, qui ont considéré que la loi de 1905, bien que Aristide Briand ait fait quelque chose d'équilibré, mais on considérait que c'était une attaque contre eux. Et vous prenez, pour avoir des discussions avec d'autres représentants religieux en France, et notamment le grand rabbin pour la communauté juive et le pareil pour la communauté protestante, ben vous voyez que eux, au contraire, disent que la laïcité a permis de renforcer et d'équilibrer les liens avec leur religion.
Oui. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui il faut la revisiter ou la corriger ?
Écoutez, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Si vous avez, dans certains cas, vous considérez qu'il y a des comportements religieux qui peuvent porter atteinte à l'État, là, il faut le dire et le dire clairement. Mais il ne faut pas mettre le réduire davantage quand même ce qui est la sphère d'intervention religieuse. Parce qu'on est quand même dans un 21e siècle où les rapports entre les sociétés et les religions sont extrêmement complexes et il ne faut pas renvoyer uniquement les religions pour être pratiquées seules à la maison, quoi.
Oui. Non, c'est très très compliqué, ça effectivement, c'est très difficile et on voit très bien enfin les problèmes qui se posent. Et justement, alors parlons aussi d'un autre sujet qui fâche, l'immigration. L'immigration, alors on dit oui, la France a toujours été une terre de migration, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Enfin, ce n'est pas la même immigration qu'on a eue. Deuxièmement, il y a l'immigration européenne. Aujourd'hui, il y a l'immigration Afrique subsaharienne. On sait les problèmes, on va pas tout traiter. Mais ce que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'il y a eu toujours, je veux dire, une espèce de climat au départ, de refus ou de rejet des populations ou pas ?
Oui, je crois quand même qu'en France, nous avons toujours connu ce type de problématique. Je ne reviens pas là aussi, c'est un symbole de notre histoire, sur la bataille de Poitiers et sur Charles Martel. Oui. Là aussi, bon, il y avait l'invasion arabe et des Sarrasins et il fallait y mettre fin. On a trouvé, alors qu'on, comme vous le savez, on se battait avec les grands féodaux et les maires du palais se battaient avec les grands féodaux, il fallait de trouver un accord. Ensuite, vous avez eu aussi, toujours au Moyen-Âge et autres, vous avez eu toujours problème avec les pays de la Méditerranée et avec la communauté juive. Ça a commencé aussi, il y a eu des problèmes d'inquisition dès le Moyen-Âge. Vous avez eu, je reprends maintenant le début du XXe siècle, vous avez cité les migrations européennes, mais début du XXe siècle, à la fin du 19e, même dans les catégories les plus populaires et parmi les syndicats qui venaient d'être créés, d'avoir des concurrents pour le travail qui étaient polonais, qui étaient italiens, qui étaient espagnols ou qui venaient d'Europe centrale et tout ça, ça n'a pas été non plus très bien vu. Puis après, vous avez eu effectivement essentiellement après-guerre et au lendemain de la décolonisation, tout ce qui s'est fait de migration, soit en provenance du Maghreb, soit en provenance de pays du Moyen-Orient, et enfin, bien sûr, d'Afrique et d'Afrique subsaharienne. Donc, et là, ça a joué, ça joue
continue
encore.
D'ailleurs.
Rappelons quand le droit du sol a été institué en France.
Bien, le droit du sol, il a été institué sous François Ier et le seul qui ait voulu faire la seule parenthèse, je reviens sur ce qu'André Berkoff avait dit, la seule parenthèse qui existait de droit du sang, c'est Napoléon qui l'avait fait. Mais ça a été, et vous voyez comme quoi l'histoire...
Oui, il l'a supprimé à une époque.
Il l'a supprimé
en 1804.
En 1804. Ouais. Et puis...
Il l'a réintroduit après.
Il est revenu au droit du sol. Enfin, j'ai pas besoin de vous dire non plus, j'en ai pas parlé comme ça, mais que au niveau de l'immigration et autres, il y a toujours eu un traitement qui était, comme vous le savez, des traitements d'esclaves et d'esclavage. Ça s'est fait, ça aussi, depuis Louis XIV, avec vous avez un certain nombre de grands ports français que je ne citerai pas, mais enfin, qui ont quand même vécu...
Mais nous avons été les premiers à abolir l'esclavage.
Mais on a été les premiers à abolir l'esclavage, vous avez raison, et de ce point de vue-là...
Victor Schœlcher.
C'était Schœlcher, et un des points d'accord qu'on ne mentionne que très rarement entre Louis XVI et la Révolution, c'est que c'était à la fin du règne de Louis XVI et sous la Révolution que, de ce point de vue-là, les progrès les plus importants se sont accomplis.
Vous le rappelez, important de le rappeler.
Dans votre livre, vous évoquez que les prémices de la théorie du grand remplacement étaient déjà présents à la fin du 19e.
Oui, parce que c'est ce que je vous disais, dans certaines régions, vous prenez tout ce qui était le bassin minier et tout, il y avait le sentiment que l'ensemble des, pas l'ensemble, mais enfin qu'une partie importante des emplois, des attributions et tout ça, était pris par d'autres populations, notamment venues d'Europe centrale.
Oui, vous avez vu qu'à cette époque, il y avait déjà un million d'étrangers en France.
Oui.
Ouais,
oui, oui.
Incroyable.
Et juste un mot, enfin, c'est quand même intéressant, on le rappelle, qu'il y a 40 ans, en 80, la personne qui avait dit il faut arrêter l'immigration officielle et l'immigration clandestine était M. Georges Marchais, secrétaire du Parti communiste français.
Et pour le rappeler aussi, les mesures les plus dures à l'époque avaient été prises par des mairies communistes, notamment à Ivry.
Oui, exact.
Eh oui. Alors, autre sujet de clivage entre la France d'hier et d'aujourd'hui, Jean-Pierre Jouyet, c'est la fracture entre les élites et le peuple. Aujourd'hui, on peut dire que la France vit avec une administration d'ancien régime. Et vous expliquez dans votre livre que déjà sous Louis XIV, eh bien, cette administration était déjà donc pléthorique.
Oui, parce que il fallait les souverains, d'une part, souhaitaient être représentés véritablement par des intendants dans les différentes provinces et qui avaient tous les pouvoirs. Et puis, deuxièmement, l'administration a longtemps été jusqu'à la, j'allais dire, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais enfin une grande partie de notre histoire, c'était des charges qui étaient transmises. Et vous aviez...
Héréditaire.
Sous l'Ancien Régime, c'était des charges héréditaires et tout. Et après, ça l'est redevenu sous la Restauration et autres. Et donc, après, vous aviez des grandes lignées dans les administrations qui étaient des lignées également familiales. Et tout ça permettait aussi aux souverains d'avoir des recettes. Et de parce que ces charges étaient vendues, vous deviez pour les transmettre à vos enfants et tout, il fallait quand même payer des droits aux souverains. Et ensuite, c'est resté toujours une administration forte parce que la Révolution avait elle besoin de, j'ai pas besoin de citer les départements qui étaient les plus réfractaires, mais enfin avait aussi besoin de d'avoir des représentants sur place. Et à la suite de la Révolution, c'est Napoléon qui encore est après le directoire et consulat qui met en place le système de préfet avec Fouché et système qui dure encore aujourd'hui qui perdure.
On va en parler.
Oui. Alors effectivement, donc les grands corps de l'État ont toujours été accusés donc de privilèges et tout. Vous qui êtes énarque, Jean-Pierre Jouyet, vous faites, je le rappelle, partie de cette fameuse promotion Voltaire. Est-ce que vous comprenez ces critiques et estimez-vous donc que l'élite a rempli son rôle ou pas? Dites-moi.
Là, je vais être franc avec vous, quitte à ne pas être toujours suivi. Je considère, et je l'ai laissé entendre, qu'il y a eu une démocratisation de l'élite administrative française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'il faut prolonger cette démocratisation et cette diversification qui n'a pas été suffisante, et c'est pour ça que ça reste dans des milieux trop fermés parfois, et ça doit être effectivement davantage ouvert. Mais d'un autre côté, il faut voir que les responsables administratifs aussi ont toujours fait preuve, quelles qu'aient été les couleurs des pouvoirs, et là aussi c'est une tradition par rapport à l'Ancien Régime, toujours été loyaux et ont toujours cherché à servir l'intérêt véritablement du pays. Et collectif. Ça, c'est ce que j'ai vu tout au long de ma carrière et des 40 ans où j'ai servi l'État.
Alors, un mot sur l'ENA qui a été supprimé en 2021. Vous étiez pour ?
On ne peut pas dire ça. Je me souviens avoir été ambassadeur au Royaume-Uni et j'avais rencontré le recteur de Cambridge, qui était un Canadien. J'ai cru qu'il allait me parler du Brexit, de Cambridge. Et le tiers du temps, il m'a dit comment vous avez pu supprimer une marque comme l'ENA, qui était sur le plan international aussi célèbre que ce que pouvait être Oxford, Cambridge ou la London School of Economics. C'est comme si l'on l'avait fait. Après, je veux dire que ce qu'il fallait faire et ce qu'il faut faire, c'est, comme je dis, renforcer démocratie, diversification et puis éviter qu'il y ait, mais ça c'est pas lié à l'ENA, mais éviter qu'il y ait trop de centralité et qu'il y ait de grandes féodalités administratives. Mais ça c'est pas lié à la formation des fonctionnaires, c'est que
c'est la décentralisation.
Et le fait qu'on doit avoir une administration plus transversale. On ne doit pas avoir les féodalités sont connues. Hein. Je viens des finances. Le Quai d'Orsay en est une autre. L'intérieur en est une autre. La défense, voilà. Et on a bien vu lors de la crise du Covid qu'il fallait quand même rassembler les administrations et non pas vivre avec ces féodalités, ce qui nous rapproche aussi de l'Ancien Régime, puisque, comme vous le savez, c'est un long combat entre les féodaux et le souverain.
Jean-Pierre Jouy, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, les quatre présidents que vous avez servis, sortent-ils du même moule ou sont-ils très différents? Comment peut-on faire évoluer notre vieux royaume, la France? Réponse dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Joyeuse. Elle dit bonjour et comment allez-vous? Mais elle sait dire non, elle est frondeuse. On ne la fera jamais mettre à genoux.
Et voilà, elle sait dire non, elle est frondeuse, c'est Pierre Perret, bien sûr, Pierre Perret, ma France, à moi. Et on se rappelle ce quatrain célèbre pour ceux qui ont étudié l'histoire, même au lycée, un vent de fronde s'est levé ce matin, je crois qu'il gronde contre le Mazarin. Vous voyez, c'est pas... Voilà. On a évoqué ça, c'est pas nouveau. Et alors Céline, effectivement, on peut se demander si tout ça perdure, et surtout... Interroge Jean-Pierre Jouyet sur les quatre monarques qu'il a connus, quand même.
Et oui, ces quatre monarques que vous avez connus, Jean-Pierre Jouyet, eh bien, c'est Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Alors, selon vous, est-ce qu'ils ont été bâtis dans le même moule ou sont-ils vraiment très différents?
Du point de vue de la formation, bien sûr, ils sont très différents.
Dans le même moule, pour 3 sur 4, oui.
Lesquels?
Quand même, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron sont bâtis sur le même moule de formation, que ce soit Cour des comptes ou l'inspection des finances, et déjà avec Valéry Giscard d'Estaing. En revanche, Nicolas Sarkozy, lui, était plus profession libérale avocat, et n'avait pas, je veux dire, le même type de formation. Sur le tempérament, je dois dire que Jacques Chirac et François Hollande avaient un tempérament qui était à peu près similaire, c'est-à-dire proche, comprenant bien les gens, aimant bien la proximité. Nicolas Sarkozy était sans doute plus individuel, mais avait quand même un dynamisme extrêmement fort et une vision et une volonté très forte. Et Emmanuel Macron, lui, est arrivé, j'allais dire, très jeune et a appris, je veux dire, à exercer ses responsabilités durant toutes les années qui viennent de se passer. Mais par rapport aux trois autres, il devrait également admettre que pour bien gouverner, ce qui était le cas de Chirac, mais aussi de Sarkozy et de Hollande, faut aussi avoir des personnalités fortes qui composent vos équipes.
Alors, dans votre livre, vous consacrez un chapitre à l'amateurisme français, une pathologie très française qui n'a pas épargné effectivement nos monarques républicains. Selon vous, qui en a été victime ?
Bien, l'amateurisme est lié, si vous voulez, parfois à l'âge du monarque. Là, je ne fais pas de référence à l'actualité. Mais quand vous prenez la Genèse de Louis XIV, il est clair que la fronde, pour reprendre ce qu'a dit André Bercoff, n'aurait pas eu cette étendue si on avait eu un monarque qui détenait les pouvoirs et qui régnait effectivement.
Et la Genèse d'Emmanuel Macron, alors ?
La Genèse d'Emmanuel Macron, non, c'est le fait, parce que vous avez dans d'autres systèmes des présidents jeunes, c'était le cas de Kennedy aux États-Unis, mais ce qui est important, c'est qu'il n'avait pas eu d'expérience préalable sur le terrain électoral avant l'élection présidentielle, et a reproché d'être parfois un peu distant avec le terrain.
Est-ce que, au fond, moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais ce n'est que mon opinion personnelle, Jean-Pierre Jouyet. Est-ce que, au fond, le problème n'est pas effectivement l'âge, mais le problème est d'être, et vous l'avez dit, c'est l'entourage. C'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression qu'il y a, et en général, je n'incrimine pas l'actuel pouvoir ou pas, mais enfin, il y a une baisse quand même, on en parlait hors antenne, je trouve une baisse de culture, d'expérience aussi, bien sûr, et de sens des proportions par rapport, alors je ne dis pas que c'était mieux avant, mais par rapport à la génération précédente. Non, il y a quelque chose là qui joue quand même.
Ce qui est vrai, mais c'est peut-être un nouveau monde, mais ce qui est vrai, c'est que auparavant et depuis les débuts de la Ve République, vous avez toujours cherché à avoir des personnalités qui avaient, une culture très forte. Si je prends Jacques Chirac et Philippe Séguin, vous auriez pu substituer l'un à l'autre aussi facilement, et ils avaient une vision très générale. Aujourd'hui, c'est des visions qui sont davantage sectorielles et qui n'ont pas toute la surface que pouvaient avoir de grands politiques auparavant. C'est tout ça pour dire que je reviens sur les élites. Il est quand même pas mauvais non plus d'avoir des élites politiques fortes.
Oui. Alors parlons d'Emmanuel Macron, parce que vous avez quand même largement contribué à le porter au pouvoir. Il ne vous a pas proposé de faire partie de son gouvernement. Est-ce que vous le regrettez ?
Non. Parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai essentiellement cherché à servir l'État. Ce que j'avais dit, c'était ce que je souhaitais, parce que moi, je l'ai connu en 2005. Et c'est quelqu'un qui était, qui avait de l'empathie, qui était extrêmement brillant, qui a une extrêmement vif et très également séduisant. Donc, il m'a tapé dans l'œil, j'allais dire.
Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à qui il a tapé dans l'œil.
Non, voilà. Et donc, tout de suite, et ce qui me paraît important, et c'est de maintenir des relations personnelles avec les personnes que l'on connaît, parce que je suis comme ça et c'est ma nature.
Et vous avez maintenu des relations avec tout le monde, enfin, pratiquement.
Oui.
Bon, écoutez, c'est très bien. En tout cas, c'est un livre à lire.
Oui, effectivement. Dernière question, rapide, parce qu'il nous reste peu de temps avant la fin de cette émission. Comment peut-on aujourd'hui réussir à faire évoluer notre vieux royaume ?
Eh bien, je crois qu'il faut à la fois tenir compte de l'histoire, mais également faire en sorte de faire que les réformes soient bien comprises et mieux comprises. Premier point. Deuxième point, il faut simplifier tout ce qui est la stratification administrative et avoir plus de lisibilité dans la répartition des compétences. Enfin, troisième point, on n'a pas parlé de l'Europe, mais il est évident, surtout dans le contexte international
actuel, de repenser l'organisation,
d'avoir une Europe qui soit fort souveraine et que la France y ait parfaitement sa place.
Oui. Espérons que vous soyez entendu, Jean-Pierre Jouyet. En tout cas, merci d'être venu sur Sud Radio. Et c'est vrai que notre vieux royaume, eh bien, on n'a pas fini de faire parler. Il n'a pas fini de faire parler de lui, ça c'est
clair. Il serait temps.
Voilà, merci à vous.
Je rappelle que votre livre, donc, Notre vieux royaume, est paru chez Albin Michel. Tout de suite, donc, sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaye. Pourquoi les hommes prennent-ils donc moins soin de leur santé? Comment les aider à le faire? Quelles sont les maladies plutôt féminines et plutôt masculines? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio avec Michel Odoul.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.